confortable. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Goethe, Maurier, Pinandre, Lévi-Cro, aussi Orlep, le Fonayirem Sender, Judaïka. Allez, je vais vous le faire en Frenchie. Bonjour, soyez les bienvenus sur la Judaïka en ce bon matin de fin de mois de juin. Notre studio prend des airs de grands jardins d'été et un parfum de vacances envahit notre studio radio. Des notes d'iris, de pivoine, peut-être même un souffle de lavande flottent dans les airs. À moins que cette agréable fraîcheur ne nous soit apportée par notre invité surprise qui nous vient de la campagne de Coxwiller à côté de Bar. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, aujourd'hui, votre poste radio, la Judaïka, l'été est déjà là. Bonjour monsieur le docteur Haus, Husdoktor, oder médecin de famille de la campagne. Bonjour, comment ça va ce matin docteur?
Bah écoutez, ça va très bien.
Un peu, pas trop de stress, non?
Non, pas de stress du tout.
Un peu stressé.
Je me suis bourré de Xanax et de
bêta-bloquant. Bêta-bloquant voilà. pour donner un air. Voilà. Ça va, docteur? Sinon, tout va bien?
Oui.
Pas trop peur des micros, là?
Si, le gros micro, là, il me gêne un petit peu.
C'est Thomas derrière qui fait ça. Voilà. Alors, Marc Gouvion de Coxwiller, le gouffre de Gox, comme on peut aussi dire. Alors, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir ici chez nous. On te connaît déjà un petit peu depuis à peine un an, je crois.
Oui,
on s'est connus à cause d'un grand philosophe, un ami en commun, qui s'appelle Jean-Claude Fréry. C'est lui qui m'a emmené un jour chez toi. Tu te souviens de cette soirée qu'on a passée ensemble dans cette belle maison, à écouter de la musique et tout, à prendre un petit pot. Alors, je suis venu aussi dans ton petit village, chez toi, pour rédiger un article dans un journal, un gratuit de Haguenau, dont je tairai le nom, Tu te souviens, l'article?
Oui, globalement, ça a été bien écrit.
Tu trouves que c'était sympa, ouais. Alors, parle-moi un peu de ton lieu de vie à l'entrée du village, devant ton portail. Il y a un enchevêtrement, c'est dur à dire, de tuyaux à poils comme ça. C'est quoi toutes ces œuvres?
Oui, donc déjà, on a acheté cette maison en 1996.
C'est une grande demeure.
C'était une grande demeure. Une maison de viticulteur maraîcher.
Ah ouais.
La maison fait 70 mètres de long.
Wow.
Sur 12 mètres de large, on a des salles d'exposition, j'ai bien sûr mon atelier et un endroit de stockage mon métal, quoi.
De ce que tu travailles, en fait,
je travaille le métal.
Aujourd'hui, tu n'es plus docteur, tu es un artiste, maintenant.
J'ai mon entreprise.
Tu as fermé ton cabinet médical.
Voilà.
Et tu es maintenant artiste.
Créateur, voilà. Et devant la maison, j'ai créé, donc, en 2002... J'ai installé deux grandes sculptures monumentales en tuyaux.
Ce qu'on voit de l'extérieur, rond-point, là.
Dont une des sculptures... les deux tubes s'appelaient les tubes de l'été, en fait.
Mais ce que je veux te dire, Marc, je passais devant... Je te connaissais pas encore. Quand je passais le rond-point...
C'est intriguant.
J'avais l'impression que c'était un ramoneur qui habitait là derrière,
exact,
tu vois.
Exact, éventuellement...
Je m'imaginais pas qu'il y avait cette place, ces ateliers de peinture et de sculpture, ce que tu fais, avec un Schweissaparot,
Avec un Schweissaparot, Et une des deux sculptures a un titre, elle s'appelle « Prisonnier de son œuvre ». En fait, la sculpture monumentale qui fait 6 mètres de hauteur, à laquelle était accrochée une cage dans laquelle il y avait un mannequin. Et ce mannequin, c'était l'artiste qui était prisonnier de son œuvre. Artiste est nécessairement prisonnier de son œuvre.
Ah, c'est beau, ça.
Dès l'instant qu'il commence à créer, il est emprisonné dans sa création.
Ouais. Mais cette idée te vient d'où, alors? Ces idées, ça vient de tes rencontres, de ton enfance?
Je pense que c'est assez compliqué chez moi. Je pense qu'elles viennent du subconscient.
Ah.
Et... Ce subconscient
de quelques rêves que tu fais la nuit.
Pas tellement des rêves, parce que j'ai eu une enfance assez difficile.
On en reparlera un peu plus tard.
Voilà.
Tu rêves de tes œuvres la nuit, comme ça
Non, ça vient quand je la crée.
Quand tu crées, ouais.
Quand je crée, il y a des choses qui se déclenchent dans la tête.
Décris-moi voir ton atelier. J'ai vu ton atelier, il y a des fils de fer partout, des tubes.
Il y a surtout des boxons.
C'est le bric-à-brac.
Il y a des postes à souder partout.
C'est la caverne d'Ali Baba, un peu.
Exact. Des marteaux partout.
Mais qui c'est qui t'amène tout ce matos?
Bah, c'est du matériel que j'ai acheté. Hein, donc,
ah, c'est pas les gitans qui t'amènent
ça. Non, quand même pas. Non, c'est du matériel que j'ai acheté chez les ferrailleurs. Hein,
ah ouais.
Notamment chez Baruch, hein, c'était le ferrailleur le plus proche hein, à Rosheim.
Ah ouais. D'accord.
Et chez qui j'ai trouvé de très belles pièces qui m'ont beaucoup inspiré. Notamment, on en parlera plus tard.
Ouais. Mais c'est du bric-à-brac organisé en fait chez toi. C'est pas. Oui, t'as besoin de tout ce que tu vois là.
Dans le bric-à-brac, je m'y retrouve.
Tu t'y retrouves sans problème.
Dès que je range, je ne trouve plus rien.
Et alors, le Schweißerbrot, c'est pas un truc très compliqué, non, de faire des soudures.
Non. Je suis autodidacte. Hein, j'ai appris par moi-même. Bon, il y a bien longtemps, j'avais un ami qui m'a montré un petit peu comment ça fonctionnait, et puis. Puis après, j'ai évolué. Maintenant, je fais de la soudure également au chalumeau.
Au chalumeau.
La soudure à l'argent, etc.
Ah ouais, waouh. Wow. Ouais, oui. Ouais, c'est beau ça. Alors, je sais aussi que derrière tes ateliers, parce qu'il y a aussi ta femme qui fait de la peinture.
De la peinture.
Vous avez deux ateliers. Il y a le tien et celui de Sophie.
On est
Sophie Gouvion, qu'on avait déjà invité ici il y a quelques temps et qui était brillantissime. Alors, il faut que tu sois comme elle, hein. Que tu sois aussi bonne, aussi bon.
J'essaierai.
Et alors, derrière ces ateliers-là, tu as aussi une immense salle de concert. Avec des haut-parleurs dans tous les sens, du matos de dingue.
Oui, qui est également salle d'exposition salle de concert. On accueille des artistes, des musiciens.
Ah ouais. Bah, écoute, on va juste reposer un peu les oreilles. On va écouter quelques petites touches de piano. Tu vas voir, ça va te plaire.
D'accord.
Mets-nous voir ça, notre ami. Joli, des touches de piano, hein, ça fait rêver. Tu aimes cette musique? Un peu calme, c'est peut-être trop calme pour toi.
Mais j'aime toutes les musiques, hein. Bon, peut-être pas le rap ou la techno, mais en général j'aime toutes les musiques, hein. La musique classique, la musique moderne, le jazz surtout.
Le jazz que tu
aimes.
Le
jazz manouche,
en
particulier.
Ouais, ça c'est beau. Ouais. Ouais, alors c'est ce qu'on écoute, on entend quand on vient toi voir tes œuvres dans cette grande salle de concert. Et là tu as du, c'est vrai que tu as du matos incroyable. Tu pourrais faire venir les Stones là-bas, non? Pourquoi pas, ou un grand groupe?
Pratiquement. Bon, j'ai déjà fait venir quelques musiciens, des créateurs, hein, de musique, hein, donc pas des gens qui reprennent la musique, quoi, mais des créateurs de musique, hein, des vrais artistes, en fait. Hein.
Et parce que le son est fidèle que tu as là-bas.
Le son est fidèle, la sonorisation est bonne dans le garage. Hein. C'est un ancien garage. Hein,
ouais. Un grand
garage qui fait quand même 100 mètres carrés.
Oui, c'est grand.
Et qui permet d'accueillir une centaine de personnes, hein, même 150 personnes. Et on a déjà accueilli de beaux artistes.
Et là, tu exposes tes œuvres ainsi que les tableaux de Sophie Gouvion, de ton épouse.
En parallèle, actuellement, avec l'exposition au château de la Leonardo.
Oui, c'est vrai qu'en ce moment, vous êtes là-bas, au château à Aubernais.
Oui.
Et là, tu exposes depuis le 3 juin, je crois.
3 juin, jusqu'au 5 juillet.
Ouais. Au 5 juillet. Ouais. Et puis là, c'est dans cette villa, dans cette demeure.
Prestigieux.
c'est presque Versailles, quoi, tellement c'est beau.
Oui, c'est l'ancienne résidence de chasse du baron Albert de Dietrich qui a fait construire sa maison au début du XXe siècle. Et c'est absolument magnifique, hein, prestigieux. Ça a été restauré par la ville d'Aubernais pendant 4 ans. Et ça s'est terminé donc l'an dernier. Ils ont quand même injecté 12 millions d'euros.
C'est énorme, énorme.
Oui, ils ont fait
ça. Bon, tu diras, ils ont des pépettes à Aubernais.
Oui, on a eu un maire qui est qui était très bien, Bernard Fischer.
Bernard, on le connaît tous.
Et puis, le nouveau maire continuera dans la même
dans lancée. Dans la même lignée.
Hein.
Oui,
il est très ouvert. Ce jeune maire... je cherche ça.
Moi, je me souviens pas de son nom non plus, mais toujours est-il. C'est vrai, j'espère qu'elle va continuer comme a fait Bernard Fischer, parce que c'est quelqu'un de bien. Je me souviens, je l'ai vu aussi chez toi dans ton expo, là, c'est vraiment chouette. Alors, avant de continuer sur cette lancée un peu artistique, j'aimerais bien un petit peu rembobiner ta vie, ce que tu as fait avant. Regarde, j'ai un petit jingle pour revenir un petit peu en arrière. Ça te fait penser à quoi, ça?
À mon enfance.
Exactement, à ton enfance. Alors, dis-moi, quel enfant étais-tu? T'étais un enfant sage, rêveur, turbulent?
Non, je pense que j'étais assez turbulent. Je me rappelle plus trop, hein. Donc,
bah, c'était il y a longtemps. Hein.
Ouais, c'était il y a bien longtemps. Et bon, on habitait Erstein, hein, chez Neerstein.
Dans le sucre?
Dans le sucre.
T'étais
oui,
un sucré à côté de ce côté, de
ouais,
un sucré.
Ouais, ouais, ouais.
Encore aujourd'hui,
je mange plus, non, plus du tout.
Plus de sucre,
plus de sucre.
Ah ouais. Parce que c'est pas bon pour la santé, tu veux dire?
Ouais. Et puis bon, on fait quand même un petit peu de sport.
Ouais.
On marche quand même pas mal et on fait un peu attention. Et puis le sucre, j'aime pas sucré.
Ouais, ouais, mais moi, je suis assez sucré. J'aime bien les choses un peu sucrées, plus que salées, tu vois. Mais ça, c'est chacun est différent. Alors, tu me disais à l'instant, tu parlais l'alsacien tout petit, hein.
Disons, c'était ma première langue.
C'était ta première langue.
Mon voisin était alsacien et en 1960.
Ouais.
Dans les années 60, les jeunes parlaient l'alsacien,
ouais,
les parents
vrai.
Parlaient l'alsacien.
Surtout à la campagne, quoi. Tu vois.
Surtout à la campagne.
Hein. Alors, le français, tu l'as appris à l'école maternelle?
À l'école, ouais, à l'école maternelle, oui, à l'école, oui, en primaire après, quoi.
Mais la maternelle, tu y étais quand même un peu, non? Tu y étais?
Oui, bien sûr,
ouais.
Oui.
Et là, tu as dû apprendre le français.
Bah oui, logiquement, parce que... oui, mais ça, je ne me rappelle plus.
Ah oui, moi non plus, mais j'imagine que moi, quand j'étais à l'école maternelle, pareil, j'étais comme toi, j'ai appris l'alsacien. Et quand la maîtresse m'appelait en français, je ne savais même pas ce qu'elle voulait. Tu vois, c'est comme ça qu'on a, je pense que c'était pareil pour toi aussi, tu vois. Alors, ton enfance, c'est vrai qu'on peut en parler à Erstein. Tu avais un terrain de jeu intéressant. Tu jouais aux billes avec les copains.
Ou... Ah oui. On avait. J'habitais pratiquement dans les prés, hein, route du Rhin. On avait les prés.
À côté de Lille.
À côté de Lille. Hein,
ah ouais.
On était à côté des prés, chasser les papillons dans les prés. J'avais une belle enfance.
Presque le bonheur total. Quoi.
Voilà. J'avais une belle enfance.
Mais il y a un mais quand même.
Il y a un mais quand même.
Tu as eu un gros malheur dans ton enfance. Tu veux en parler si tu veux en parler.
Je peux en parler, oui, bien sûr.
Parle-en brièvement.
Bon, j'ai déjà perdu mon parrain à l'âge de 3 ans.
Ouais.
Et surtout, un certain 29 août 1966, mon père est décédé brutalement.
Waouh.
C'est moi-même qui l'ai retrouvé décédé, mort dans la cuisine. Le dimanche matin du 29 août.
Oh, quelle horreur.
Et ça a été le basculement de ma vie, quoi. Ça a vraiment profondément.
Tu étais perdu, tu veux dire?
J'étais profondément choqué et
abandonné.
Abandonné. Et après la mort, plus personne ne m'en parlait. Donc c'était quelque part, je le refoulais un peu
Surtout que tu l'as vu de tes yeux,
voilà.
Quoi, c'est ça.
Je l'ai vu de mes yeux, il était allongé par terre, les yeux ouverts.
Oh là là, quelle horreur.
C'est abominable. Encore l'image
j'imagine,
actuellement en tête.
Mais je veux pas de tristesse en fait, non, ici au micro. Tout simplement, à quoi tu t'es raccroché alors quand tu étais petit garçon, adolescent? À quoi tu te raccroches? Aux études?
Ah oui, bon ben disons que... La scolarité était assez compliquée. Hein,
jusqu'en troisième,
jusqu'en troisième,
ouais.
La scolarité en primaire, bon, c'était moyen, quoi, moyen médiocre. Sixième, cinquième, quatrième, c'était pas terrible. Et puis, après, la sœur de mon père m'a repêché, en fait.
Hein, ah ouais.
Ma tante, donc, qui habitait au-dessus de chez nous, hein, à Aubernais. Puisqu'on habitait à Aubernais après.
Après, ouais.
Et
ouais.
Elle m'a repêché et c'est quelque part elle qui m'a sauvé. Hein,
mais après, t'as aussi.
J'ai incité à travailler et là, j'ai vraiment. J'ai changé, j'ai travaillé beaucoup. Et
t'as découvert les maths.
Voilà.
T'as découvert les maths à l'école.
C'était un peu la seule chose à laquelle je pouvais me rattacher, hein, puisque moi, j'étais pas très très bon en français. Hein. Ma mère était d'origine allemande. Donc,
ouais. Donc je spreche Fließend Deutsch.
Ouais, je spreche Fließend Deutsch.
Et alors ces maths, comment ça se fait qu'on peut s'intéresser aux maths?
Ben, ma mère était quand même assez forte en maths, mon père aussi. Hein, je crois que c'est quelque chose qui
dans est les gènes.
Dans les gènes, je
ouais,
pense.
C'est ça.
Hein. Et donc en troisième, j'étais un bon élève, bizarrement. Hein, quatrième à troisième, j'ai eu un basculement.
T'as explosé, quoi.
Ça a explosé, bon, grâce à ma tante, toujours.
T'as peut-être aussi eu un instit qui était intéressant, qui s'est intéressé à toi
ouais.
Et qui t'a pas laissé choir, quoi.
Voilà.
Tu vois, hein.
Hein, j'avais un prof de maths qui m'a repéré.
Bah oui.
Et en troisième, donc, il a dit, écoute, toi, tu vas passer en seconde C. Et la seconde C, c'était quand même quelque chose dans le temps, relativement prestigieux, la meilleure des classes. Enfin bon, mathématiques, il n'y a pas que les mathématiques dans la vie non plus. Hein. Mais bon, je me suis accroché aux maths parce que c'était la seule porte de sortie pour moi. Hein. Après, j'ai réussi à passer en première C.
Et là, tu te diriges vers la médecine.
Voilà, et entrer en terminale C.
Ouais.
Et bon, j'ai réussi mon bac avec une mention. Et après, ben, je me suis pré-inscrit en médecine en mars de l'année 1979. Et bon, ben, j'ai passé le baccalauréat, ça a tout allé très vite. Après, l'été a passé. Et puis après, finalement, je me suis inscrit en médecine. Hein, c'était un peu une suite logique. Et puis mon frère était médecin à Erstein. Il a 12 ans de plus que moi. Donc il était déjà installé quand j'ai commencé. Et ben, du coup, j'ai fait la médecine, quoi.
Et c'est quelque chose qui t'a vraiment intéressé de rencontrer des gens, de faire des diagnostics.
Pendant les études, on ne se rend pas compte, hein, puisqu'on n'a pas de contact avec les patients.
Mais après, quand tu t'es installé.
Ce qui était bien en médecine, c'est qu'il y avait beaucoup. Dans le temps, hein, en 79, il y avait beaucoup de mathématiques. Et c'est vrai que pour réussir le P1, le PCEM1, il fallait quand même être relativement fort en maths. Hein.
Et bon, mais tu avais aussi une bonne mémoire, j'imagine. Tu apprenais.
J'avais une très bonne mémoire, mais ça se travaille la mémoire.
Hein. C'est vrai. T'avais pas besoin de bachoter, d'apprendre.
Ah, si, quand même.
Si,
hein,
quand même.
J'ai passé beaucoup de temps. Hein.
Ouais.
Le matin à 7h, j'étais devant mes cours. Hein. Ouais, ouais. Tout était planifié.
Ah, ouais. D'accord.
J'avais 2 heures organisé, d'anatomie, 2 heures de biophysique, l'après-midi, 2 heures de biochimie. Ensuite, 2 heures de maths. C'était comme ça. Quoi.
Et cette médecine, alors, tu t'installes à Obernai, alors, comme Hussdoktor?
Voilà, je me suis installé à Obernai le 6 novembre 1989.
Dr House,
voilà.
Ah, fatigué, ouais, c'est
bien. C'est vrai que j'ai un bon diagnostic. Enfin, je pense avoir eu un bon diagnostic.
Tu sentais bien les gens quand ils venaient te voir?
Ouais, quand j'avais le patient en face de moi, j'allais dans le sens du diagnostic. Quoi.
D'accord.
Et j'examinais toujours mes patients.
D'accord.
C'est très important. J'ai un très bon contact avec les gens.
Avec les gens, mais tu l'as toujours, ça. Je vois bien comment tu es à la radio.
Ouais,
là, c'est...
ouais. Et puis,
t'as toujours
moi,
un bon
contact. J'aime les gens, hein, ça c'est clair. Hein, bon, les gens l'ont montré aussi quand je leur ai annoncé que j'ai arrêté.
Que t'as arrêté, ils étaient malheureux.
Hein. Moi aussi, ça m'a fait mal. Hein.
C'est difficile de partir quand on est. De qui peut partir à la retraite.
C'était
quand on a
difficile
eu...
pour moi.
Ouais.
Et
ouais.
J'ai senti que la douleur un peu chez les gens.
Chez les gens. Ça, et ça clair. Fait combien de temps que tu es parti à la retraite? Ça fait quoi?
Bah là, ça fait 6 mois.
6 mois seulement.
6 mois.
Et tu as fait 36 ans de médecine. Hein,
36 ans de médecine, 36... plus 3 années d'internat.
Ah ouais.
Et 3 années d'externat.
Hein. D'accord.
Donc
aujourd'hui, cette retraite, tu fais quoi de tes journées? Tu fais des randos, tu me dis?
Oui.
Et
bon.
Surtout. Tu es dans ton...
On marche tous les jours. Donc, ça, on fait 6 km en marche rapide.
Avec ta petite femme.
Voilà, avec Sophie. On fait de la marche rapide, la marche nordique, hein, 6 km à l'heure en montée. Hein, donc, on monte en Landsberg, on carbure
qu'est-ce,
bien.
C'est bien. Et qu'est-ce qui te reste de ces années médecine? Qu'est-ce qui te reste? Le contact avec les gens?
Quand je vais au Bernay, je rencontre nécessairement des gens. Et puis, bon, ben... Ils me disent tous, mais pourquoi vous avez arrêté? Il fallait pas, vous auriez pu attendre que je meure avant d'arrêter.
Ah ouais.
Alors, des gens beaucoup plus jeunes que moi qui me disent ça. Quoi.
Et tu penses que ces jeunes médecins qui sont maintenant, qui sortent des études,
ouais.
Et ils ont cette même passion, cette même envie d'y aller, de travailler, d'être là dans...
Les jeunes qui sont sortis là, je pense que c'est une bonne année, quoi. J'ai des échos des gens qui ont repris... des jeunes médecins qui ont repris ma clientèle. J'ai des bons retours, ils sont sérieux.
Mais je crois qu'il y a aussi des gens, là, un peu dans tous les métiers, comme dans le journalisme ou comme ailleurs, il y a aussi des gens qui veulent beaucoup de temps libre, passer du temps avec leur famille et tout, et ne pas passer centaine d'heures par semaine. Ça existe aussi, ça.
C'est des bons cas, d'ailleurs.
Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Je pense que...
Je sais pas. Bon, moi, j'étais disponible pour les gens. Hein.
Ouais.
Je faisais beaucoup de domicile. Quand on m'appelait, j'y allais. Hein.
T'allais avec ta voiture sur place.
J'y allais. Et dans la journée.
Dans la journée.
Qu'on m'appelait le matin, si c'était hyper urgent, j'y allais tout de suite. Sinon, si c'était moins urgent, je passais dans la journée.
Et alors, tu rentrais dans l'intimité des gens.
Ouais,
t'étais quasiment près d'eux.
Et
quoi.
Ça, c'était beau.
Ça, c'est beau, ça.
Le fait de faire des visites à domicile, c'est quelque chose de plus. Je pense qu'il ne faudrait pas que ça disparaisse, ça. J'appelle les jeunes médecins à continuer à faire des visites à domicile. C'est important parce qu'on comprend le contexte dans lequel vivent les patients. On peut comprendre la pathologie dont ils souffrent.
Ah oui.
Et ça, c'est très important.
Ça, c'est bien.
On connaît les gens. Et quand on rentre un peu dans l'intimité des gens, il y a une confiance qui s'installe.
Oui, c'est ça. Ouais,
je ne suis pas le technicien qui est au bureau, les voit juste 5 ou 10 minutes ou un quart d'heure, qui les examine. Je ne dis pas. Mais le fait d'aller chez eux, tu rentres dans leur intimité et dans le dialogue et puis alors, dans, ils te font dans la fois, confiance.
Et est-ce qu'ils te font des fois un petit cadeau, un couglop fouille-toi ah bah froid lapin,
oui,
ou un truc comme ça
hein.
C'est souvent les médecins de campagne, c'est ça.
Ben oui, c'est ça.
J'ai
hein.
des amis qui sont dans le nord
et
de l'Alsace.
On me sert régulièrement.
Ouais, c'est bien.
Quand, je vais
ouais.
chez, quand j'allais chez mes patients turcs, ils me servaient régulièrement, mais sans demander, une tasse de thé, thé noir, thé. Mais hyper chaud.
Ah ouais, chouette.
Et non, c'était très sympathique.
C'était sympa. Bon, on va passer un autre petit volet. On va écouter un tout petit peu de musique des années un peu... années qui nous concernent, les amis, hein, les années chemise à flair et pattes d'éléphant, les années un peu 70. On va écouter une petite musica. Tu peux nous la mettre, s'il te plaît, Thomas ?
Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Alors, tu connais ce groupe ? Je crois que j'ai déjà entendu cette musique dans ton atelier. Tu sais qui c'est ?
Oui, là, j'ai un trou de mémoire.
Grosse pistille Nashenyang.
Ah là 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 là. C'est tout à l'heure, le maire d'Aubernais,
oui,
c'est Robert Klaus.
Moi aussi, j'ai des moments, des trous comme ça dans la mémoire.
Comme ça arrive. Hein, ouais.
C'est pour ça que j'ai des fiches, moi, tu vois. J'ai des fiches. Alors, cette musique, elle exprime vraiment le bonheur, hein, un peu la simplicité, le bonheur, cette musique qu'on vient d'entendre. Est-ce que toi aussi, depuis ta retraite, tu as retrouvé une sorte de un bonheur simple à faire de l'art, à faire tes sculptures
hein. Ah ben, moi, j'ai fait de la sculpture, ça fait 35 ans que j'ai fait la sculpture.
Avant que hein.
Ah oui, oui,
d'accord.
Oui. J'avais commencé à faire mes sculptures au début des années 90. Hein,
Et pourquoi c'était quoi ta première sculpture ?
Ma première sculpture, oh là là.
T'as fait une lampe de chevet ou quoi ?
Voilà. Non. Je me suis installé le 6 novembre 89. Et puis.
Comme médecin,
dire. Comme médecin.
Ouais.
Et je cherchais une lampe pour la salle d'attente.
Ah.
Et j'ai fait différents magasins, il n'y a rien qui me convenait. Et à ce moment-là, on s'est dit, Sophie et moi, on va faire notre lampe nous-mêmes. Et puis alors, on s'est dit, tiens, pourquoi pas en métal, hein ?
Ouais.
Pourquoi pas, hein ?
Mais t'avais déjà le cheval et sa parente ? T'avais déjà tout ça ?
J'ai acheté ça par la suite.
Par
hein,
la suite, ouais.
On a récupéré des pièces dans l'ébène.
C'est bien,
encore,
ouais.
Encore dans le temps, tu pouvais accéder aux
chez
bennes,
les ferrailleurs.
Derrière, ouais. Non, pas chez le ferrailleur.
Ah ouais.
Derrière les usines comme Supra, etc.
Ah, ils comme Supra.
Toujours des chutes d'oxycoupage.
Supra, c'est à Aubernais, hein. Ils faisaient des poils à mazout.
Oui, des poils à mazout.
Ouais, je me souviens.
Et puis, j'ai récupéré des pièces et puis on a assemblé des pièces. Et on a réalisé une lampe pour la salle d'attente. Et après, pour Noël, qu'on n'avait pas de sous hein, au début, hein, quand on s'installe, on n'a pas d'argent, on a fait un cadeau de Noël à chacun des membres de la famille qu'on faisait nous-mêmes.
Ah ouais.
Et à partir donc de pièces métalliques, et on faisait des choses abstraites.
C'était pas un collier de nouilles. Hein.
Non, c'était pas un collier de nouilles.
Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu consacres une grande partie de ton temps.
Ah, c'est ma vocation, là.
T'es dans ton atelier et tu mélanges toutes sortes de matières. T'as même eu des presses de chez Belli, là, des Prechtel,
ouais,
là.
J'ai
vu ça, un truc qui tourne comme ça. Et après, tu mets des fils, enfin, pas des fils, mais c'est du métal, comme ça, que tu vernis après.
Et oui, bon, ça fait quand même, ce que j'ai dit, hein, ça fait plus de 30 ans que je fais de la création artistique. J'ai mis un petit peu ça au repos pendant un certain nombre d'années, puisque pour moi, je travaillais beaucoup. À cause
de ton travail, hein,
bien
sûr.
Le travail, c'était énorme. Hein, donc, je ne pouvais pas trop m'y consacrer. C'est que depuis un an et demi, ce qui a été le détonateur, c'était Rundum. C'est Karinam, quand elle est venue chez moi.
Que je t'avais envoyé un jour chez toi.
Envoyé, et qui est venue chez nous. Alors, bien sûr, c'était le branle-bas de combat. Il fallait ranger l'atelier. Il fallait remettre les postes à souder en fonction, etc. Et j'ai de nouveau réalisé une nouvelle œuvre quand ils sont passés, ils m'ont filmé en direct.
Tu me l'avais dit, tu me l'avais montré.
J'ai réalisé une œuvre devant. Et c'était la première d'une grande série. Que j'ai réalisée.
Et aujourd'hui, toutes ces œuvres sont à Obernai, dans cette salle d'exposition de luxe, là-haut où tu exposes.
Voilà, c'est à la Leonardo, en fait. Ouais. Là, c'est...
Catégoriquement refait, hein, on l'a dit tout à l'heure.
C'est magnifique. La résidence de chasse qui est placée tout près de Saint-Léonard.
De Saint-Léonard, oui, exactement. Une belle restauration.
Oui. Et là, on expose quand même de très belles choses.
Et que disent les gens quand ils viennent te voir? Est-ce que tu les suis du regard?
J'entre en contact avec eux.
Avec eux.
Donc, le contact facile, je l'ai avec les gens.
D'accord. Mais il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence. D'abord, ils observent. Tu observes et après, tu vas les voir.
Les sculptures sont difficilement compréhensibles. Hein. C'est de l'art abstrait. Et bon, les gens ne les comprennent pas toujours. Mais moi-même, je ne les comprends pas toujours.
C'est drôle.
Parce que ces sculptures, je pense qu'elles sont issues du subconscient.
Ah ouais.
Et qui est directement lié, je pense, à ce choc émotionnel que j'ai eu de la mort de mon père en 1966.
D'accord.
et qui s'est accumulée au niveau du subconscient, les choses qui ont été refoulées vers là et qui ressurgissent maintenant par un langage de l'inconscient.
De l'inconscient, ouais.
Hein,
et alors cette exposition, elle a un drôle de nom, Espèce de vivant.
Oui.
Pourquoi vous avez donné ce nom?
C'est
tous
pas
les
nous qui avons choisi le sujet, c'était la ville d'Obernai, l'espace culturel, quoi. Hein, donc, en fait, c'est surtout dans le domaine du.
Dans quel domaine tu veux dire? C'est parce qu'en fait, toi tu exposes et de l'autre côté il y a ton épouse qui expose. Dessine sur des grandes. Des toiles. C'est quoi les toiles? Ça vient d'où?
C'est de la toile de jute. Hein, c'est des anciennes. Des anciens sacs de café, de cacao. Des années coloniales.
Ouais,
hein, avec
toutes
les inscriptions d'origine. Cameroun.
Café
Sati,
ce genre de choses.
Café Sati, entre autres.
Qui est dessus. Et alors ta femme, pareil, elle fait des magnifiques dessins, des couleurs, des corps aussi qui s'enchevêtrent comme
ça, un petit peu
avec des animaux
chimériques. Voilà,
chimériques,
c'est
magnifique ce que vous faites tous les deux. Vous vous complétez bien, je trouve.
Ouais, moi dans l'abstrait, dans le chimérique.
Dans le chimérique,
ça se combine très bien.
Et puis c'est très flamboyant ce qu'elle fait, Sophie, je trouve. Et alors ces gens qui viennent vous voir, c'est ouvert de quand à quand votre exposition?
Disons c'est ouvert jusqu'au 5 juillet.
D'accord.
Tous les mercredis après-midi, vendredi après-midi, samedi après-midi et dimanche après-midi de 14h à 18h.
D'accord.
Je recommande vivement aux gens de venir voir ce château, le château.
Déjà le parc à l'extérieur.
Bien sûr, voilà le parc.
Faut dire qu'on peut se garer facilement.
Voilà.
Et après une balade dans le parc. Et
visiter l'exposition qui est entièrement gratuite et climatisée.
Ouais.
Important, hein, surtout en ce moment.
Et aussi, par curiosité, il faut voir ce bâtiment.
Il faut voir cette
maison, elle est sublime. Ouais. Est-ce que tu penses que retrouverez un jour une salle d'expo comme celle-là? Ça, c'est quand même assez rare. Hein.
Là, je compte un peu sur vous.
Mais
s'il y a un auditeur qui m'entend.
Il faut faire des appels.
Et qui connaît des salles d'expo un peu prestigieuses, un peu sympas.
On peut juste rappeler la date de clôture, c'est le 5 juillet.
Ouais, le dimanche 5 juillet.
Et c'est tous les jours de 14h à 18h.
Le mercredi, vendredi, samedi et dimanche.
Ouais, tu l'as déjà. Ouais. En tout cas, je vous souhaite, les Gouvions de Gox, une super expo.
Merci.
Beaucoup de gens viennent vous voir parce que vous êtes des lumières tous les deux. Vous êtes tous les deux des soleils. Voilà ce que je voulais dire pour
la
fin. Voilà, notre émission se termine. On se retrouve encore la semaine prochaine pour la dernière émission avant les grandes vacances. Soyez heureux d'ici là.
Oui, merci beaucoup et à bientôt au château.
Salut, il n'en loupe pas une. Hein.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huile.